Cet été, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées, issues de notre saison 2013-2014.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est une catastrophe.
Qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
La deux chevaux, la Rosalie, la traction, la déesse, la Missis, la Diane. Autant de voitures qui évoquent pour vous, j'en suis sûre, la fameuse marque aux deux V renversés, symbole du véhicule populaire, mais aussi présidentiel. Citroën a marqué l'imaginaire français. Mais plus qu'une marque, Citroën, c'est aussi une histoire d'homme. Celle d'André Citroën, le premier patron, mais aussi celle de ceux qui ont vécu Citroën. Citroën, par ceux qui l'ont fait, c'est donc un blog sur Internet, mais aussi un livre aux éditions de l'Atelier, coécrit par notre invité historien Alexandre Courban. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Un mot tout d'abord sur l'histoire même de ce livre. Alors pour une fois, c'est pas l'historien qui est allé chercher les témoins, c'est tout le contraire si je comprends bien.
Tout à fait. C'est effectivement les témoins, plutôt les acteurs de cette histoire qui ont décidé de passer le pas et d'oser écrire leur histoire avec un petit H, leur histoire au pluriel, et l'ensemble de ces histoires qui ont rencontré la grande histoire.
Nous retrouvons la voix de Roger Gauvry, surnommé le sculpteur. La spécialité de Roger, c'est la carrosserie.
J'ai aimé d'abord au niveau de ma qualification, de travailler des formes sur maquette. C'est un boulot assez extraordinaire qui s'apparentait un peu pour moi à un travail quasi de sculpture. Donc c'est un travail très riche. Je l'ai aimé aussi par les personnes que j'ai côtoyées, les diverses personnes que je revois encore aujourd'hui. J'en ai beaucoup perdu de vue, mais il y avait une ambiance formidable, des gens extrêmement divers, les qualifiés sur leur travail. C'était un lieu vraiment de fraternité, de solidarité extraordinaire, je parle pour le bureau d'études.
Le bureau d'études, un lieu de convivialité et de solidarité extraordinaire, selon Roger Gauvry, qui évoque son métier de formeur carrossier avec une grande fierté, on l'a entendu. Il est l'un des co-auteurs de Citroën par ceux qui l'ont fait. Il est entré dans l'entreprise en 63. Alexandre Courban, de quoi est-il si fier, Roger Gauvry ?
Il me semble que, comme l'ensemble de celles et ceux qui ont pu participer à cet ouvrage, ils sont fiers d'avoir pu raconter que leur engagement prend racine dans la réalité de leur travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que travailler dans une usine, dans une grande usine, et la chose est un peu différente dans un bureau d'études, mais Roger n'est pas resté qu'au bureau d'études, c'est travailler au milieu du bruit, au milieu des odeurs, et parfois cela nécessite de se mobiliser pour demander des choses très simples. C'est le cas des ouvriers de Rennes-la-Jeannée en 1964 qui demandent tout simplement à avoir de l'eau chaude pour se laver les mains et rentrer chez eux le plus propre possible.
Mais en l'occurrence, la Roger Gauvry met l'accent sur la fierté de son savoir-faire.
Il y a la fierté du travail, évidemment, que ces hommes et ces femmes ont régulièrement mis en avant, c'est-à-dire qu'ils étaient capables, avec leurs mains, au-delà des machines, de contribuer à la fabrication de l'automobile, qui est quand même l'un des mythes du XXe siècle.
Comment s'appellent ces métiers, justement, à l'époque ? Alors lui, il est formeur carrossier, quels sont ces métiers, ces savoir-faire ?
Oh, il existe énormément d'appellations. Il y a les ajusteurs, les outilleurs, les ajusteurs-outilleurs, les carrossiers, les formeurs, les estompeurs, par exemple, qui travaillent aux forges, je pense aux forces de Clichy, et tout un tas d'appellations en fonction des tâches qui sont demandées.
Et en même temps, vous l'avez souligné, cette production de voitures, elle se déroule en usine, à la chaîne, et ça a laissé des traces, notamment chez Claude Rousseau.
On avait déjà des machines modernes qui faisaient énormément de bruit. Alors les décibels, je vous dis pas, il y en avait. Ouais. Mais c'est surtout les cadences infernal déjà à l'époque. Souvent, j'arrivais pas à faire les cadences, même en y mettant de la bonne volonté. On vous donne un nombre déterminé à faire par jour, si vous voulez faire votre boni, on appelait ça le boni, il fallait travailler, quoi, le plus vite possible. Quand arrivé à la fin de la semaine, c'était vraiment pour me reposer. Et à l'époque, il fallait travailler un samedi sur deux pour être bien vu.
Claude, surnommé l'insoumis, il n'arrive pas à soutenir les cadences, sans compter les problèmes de surdité engendrés par les décibels. Claude qui doit réaliser ses bonis, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est l'objectif qui est fixé à chacun pour permettre ensuite d'obtenir la paye suffisante. Si vous réalisez le boni, vous aurez une paye qui sera à la hauteur de ce que vous pouvez espérer. Si vous ne réalisez pas le boni, votre paye sera inférieure.
Ce qu'on entend aussi dans le témoignage de Claude, hein, c'est cette mémoire ouvrière qui passe par la mémoire du corps. On voit que c'est inscrit dans le corps. De travail.
On ne travaille pas indéfiniment dans un atelier, donc au milieu du bruit, on l'a dit, mais également au milieu des odeurs, ce qu'on ne peut pas entendre, parmi les uns et les autres, sans avoir de souvenirs dans le corps. On n'embauche pas à 5h30 le matin pour débaucher à 14h ou plus tard, sans que le corps ne se souvienne pas également de cette réalité du travail, qui n'est pas que le travail à la chaîne ou dans l'usine, il y a aussi tout ce qu'il y a autour de ce travail et toutes les contraintes qui peuvent peser sur l'existence de ces ouvriers qui, pour la plupart de celles et ceux qui ont participé à cet ouvrage, ne sont pas issus de la région parisienne. La plupart d'entre eux, ce sont des immigrés de l'intérieur, si je peux parler ainsi, qui, leur CAP en poche, ont envoyé des courriers dans les différentes usines de la métallurgie parisienne et qui, pour certains, sont allés chez Citroën parce que la lettre de Renault est arrivée tout simplement après.
Citroën. Front wheel drive, a sculptured beauty, hydropneumatic suspension, aerodynamic shape. The French have a name for it. Citroën.
Et tous ces ouvriers, donc ces Bretons, ces Corses, ces Auvergnats, ils ont fabriqué des voitures. Pas de voitures sans ouvriers, mais pas d'ouvriers sans patron chez Citroën, comme dans toutes les firmes automobiles. Et le tout premier chez Citroën, il s'appelle André. Pour nous en parler, nous appelons sa biographe au téléphone. Bonjour, Sylvie Schweitzer.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RFI pour nous présenter André Citroën. Comment faut-il imaginer cet homme qui rêvait que les premiers mots prononcés par les enfants soient papa, maman, auto ?
Eh bien, écoutez, il y a plusieurs manières de le présenter. La figure la plus connue, c'est que c'est un polytechnicien.
Oui.
On dit moins souvent que c'est un fils d'immigré.
Effectivement.
Voilà, son père était un diamantaire juif. Sa mère était polonaise et donc ses parents avaient émigré en France au début de la Troisième République. Et très bon élève évidemment. Il est entré à l'école polytechnique. Mais ça veut donc dire qu'en fait il était riche et que sa réussite professionnelle s'est beaucoup ancrée dans sa richesse personnelle et dans ses réseaux. Donc les réseaux de polytechniciens, les réseaux de banquiers, les réseaux de diamantaires et également jusqu'à la Première Guerre mondiale dans la franc-maçonnerie.
Donnez-moi une usine et je produirai 50 000 obus par jour. Étrange demande adressée en janvier 1915 au ministre de l'armement par un capitaine d'artillerie qui avait quitté le front sans permission. Le ministre se contenta de passer une première commande d'un million d'obus. Cela suffit à André Citroën pour acquérir 12 hectares quai de Javel, y élever de briquet de broc un bâtiment, fabriquer les munitions dont la France avait besoin, puis, dès 1919, des voitures. Ainsi naquit le quai de Javel, l'une des plus prestigieuses marques d'automobiles, mais aussi l'une des plus grandes propriétés foncières de Paris, plus de 23 hectares situés dans le 15e arrondissement.
En 1917, André Citroën est donc à la pointe de l'effort de guerre. Fabriquer des obus, fabriquer des munitions, c'est désormais le quotidien des ouvriers de chez Citroën, qui en réalité sont des ouvrières. Elles ont d'ailleurs un surnom. Comment les appelle-t-on, Sylvie Schweitzer ?
Elle fabrique des munitions, donc on les appelle des munitionnettes.
Que va-t-il se passer dans cette usine où effectivement les places ont été prises par ces femmes, hein, puisque les hommes sont au front?
On est en plein taylorisme. Le taylorisme, c'est la simplification des tâches et la décomposition des tâches qui va permettre la mécanisation ensuite dans le système qu'on appelle fordiste. Et ces femmes, en réalité, sont déjà des femmes qui sont au travail ailleurs. L'avantage dans les usines de guerre, c'est qu'elles sont beaucoup mieux payées que quand elles font de la couture ou qu'elles sont dans des petites industries ou des petits commerces. Et la grande révolte des munitionnettes, c'est 1910. Où elles demandent des augmentations de salaire, qu'elles obtiennent d'ailleurs, parce qu'on est encore en pleine guerre et donc c'est pas tolérable d'avoir des conflits sociaux qui arrêtent la production.
Citroën. Technologie. Alexandre Corban, si je comprends bien, dès les premières années d'existence de l'entreprise Citroën, à travers cette révolte des munitionnettes, hein, de ces femmes qui fabriquent ces obus, le conflit sur les conditions de travail entre ouvriers et patrons émerge. Est-ce que ça aussi, c'est une marque de fabrique chez Citroën, de Citroën ?
Le conflit est quelque chose d'assez courant dans les entreprises de la métallurgie. On pourrait renvoyer aux grandes grèves du Creusot et du groupe Schneider, bien antérieures à la constitution du groupe Citroën. L'une des particularités d'André Citroën, et qui tient certainement à son génie, si on peut employer cette expression, c'est qu'il mobilise toutes les techniques et tous les moyens dont il a connaissance pour pouvoir promouvoir son projet. Par exemple, il va organiser des visites des pouponnières et autres salles qui met à disposition des femmes, des munitionnettes qui travaillent donc dans l'usine du quai de Javel, ce qui est souligné dans la presse de l'époque comme une sorte d'avant-garde sociale que ce patron propose. On oublie tout simplement de préciser que ces femmes travaillent 24 heures sur 24 et s'il n'y a pas ces pouponnières et la possibilité d'accueillir les enfants de ces femmes, je ne vois pas comment elles auraient pu travailler 24 heures sur 24, se relayant les unes après les autres.
Et ça ne les empêche pas de revendiquer leurs conditions de salaire.
Au printemps 1917, effectivement, il y a des revendications qui sont posées. D'abord parce que les femmes gagnent moitié moins que les hommes. On a tendance à considérer que, quand bien même elles travaillent autant d'heures que les hommes, elles n'ont besoin que d'un demi-salaire, puisque c'est l'homme qui va apporter le salaire dans son entier. Donc, il n'est pas nécessaire de les rétribuer à la hauteur de la tâche qu'elles effectuent. Et effectivement, au printemps 17, dans un contexte politique, social plus large, les munitionnettes de chez Citroën vont débrayer, vont faire la grève pour obtenir des conditions de salaire revalorisées.
Elles sont syndiquées ?
C'est difficile pour moi de répondre par l'affirmative à cette question, mais ça l'est tout autant de répondre par la négative. On manque encore de travail là-dessus.
La marche du monde, Valérie Niblon sur RFI.
Sylvie Schweitzer, vous êtes avec nous pour évoquer l'épopée de l'entreprise Citroën, pensée et dirigée par son patron, André. André Citroën, marchand de canons pendant la Première Guerre mondiale, et qui, à peine l'armistice signé, annonce « Là où on a vu faire des obus, on verra bientôt se construire des automobiles. » Alors il veut se lancer dans l'aventure et sortir un véhicule unique à 100 exemplaires. Comment envisage-t-il ce projet ? Il est polytechnicien, vous nous l'avez dit, c'est un homme d'idées, vous l'avez souligné.
Il envisage ce projet un petit peu comme il avait proposé de construire que des obus dans son usine, c'est-à-dire une production d'un objet unique, qui est le tout petit véhicule, la type A. Et il s'inspire très directement d'Henry Ford, avec sa Ford T. Et donc, il reconvertit ses usines et il déclare effectivement qu'il va fabriquer un modèle unique d'automobile pour multiplier la fabrication à partir du moment où elle est simplifiée. Et c'est une automobile très peu chère qu'effectivement, il va vendre très bien et son modèle sort de ses chaînes tous les jours. Donc, c'est un changement d'échelle total.
Sylvie Schweitzer, cela veut dire que André Citroën est donc fasciné par la réussite de Ford aux États-Unis. Est-ce qu'il se rend physiquement aux États-Unis ? Est-ce que les deux hommes se rencontrent ?
Ils se rencontrent très souvent. André Citroën fait plusieurs voyages aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Il envoie de très nombreuses missions de ses collaborateurs, généralement d'ailleurs aussi des polytechniciens ou des centraliens. Et de surcroît, il reçoit même Henri Ford au Quai de Javel. Les deux hommes se connaissent très bien, s'admirent d'ailleurs, tant du point de vue des méthodes que des investissements. Et l'idée d'André Citroën, c'est d'atteindre à une chaîne unique de montage de voitures comme Henri Ford. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs dans les années 1930.
Alors la première voiture Citroën, c'est la Type A Torpedo 10 HP, sortie le 28 mai 1919. Vous l'avez souligné, Sylvie Schweitzer. Quels vont être ensuite les succès, les grandes créations de l'usine Citroën?
Je pense qu'on peut faire un raccourci et dire que d'entre la Type A et les types des diverses autres automobiles qui s'appellent B, C, etc., le grand véhicule symboliquement attaché à son nom, c'est bien sûr la traction avant qui sort en 1934 et qui, elle, est une vraie innovation à cause de la traction avant, justement, qui rend les véhicules beaucoup plus sûrs.
Monsieur André Citroën a vu Monsieur Ford Henry. C'est le travail à la chaîne qui l'a ramené dans notre chère patrie. La
Sylvie Schweitzer, pour conclure, finalement, pourquoi perd-il son empire au profit de Michelin?
André Citroën va perdre son empire parce qu'il a beaucoup investi en 1933 pour produire la traction avant, qui est une grande réussite technologique. À ce moment-là, d'ailleurs, il y a eu pour pouvoir reconstruire ses usines pour lesquelles il est beaucoup endetté, il a déclenché un lock-out de ses ouvriers, déclenché une grève de son personnel. Une fois la grève déclenchée, il a fermé l'usine. Et il a reconstruit des usines de Javel qui n'existent plus aujourd'hui en l'espace de 2 mois. Et André Citroën, au moment de cette grève de 1933, va négocier des accords avec les syndicats ouvriers qui sont en fait des modèles ensuite pour les grèves de 1936. Et entre-temps, il a été mis en faillite par son plus gros créancier, qui est la firme Michelin, qui donc a récupéré les usines, et surtout la firme Michelin a récupéré la traction avant. Ils mettent en même temps, après la guerre, au point la deux chevaux, alors qu'on pense que c'est André Citroën qui a créé la deux chevaux.
Bah oui.
Et la traction avant sera remplacée par un autre véhicule qui est la DS.
Merci Sylvie Schweitzer. Je rappelle votre dernière parution, Femme de pouvoir, une histoire de l'égalité professionnelle en Europe, aux éditions Payot.
Révolution dans la technique aérodynamique. Regarde maman, les beaux cardans, homo cinétique. Voici les tractions avant. Et au salon, c'est l'affolement. Albert Lebrun, plein d'émotion, fait marcher le klaxon. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle.
Je me tourne vers vous, Alexandre Courban. Vous êtes notre invité à l'occasion de la sortie de ce livre Citroën par ceux qui l'ont fait. Moi, j'aimerais savoir comment, donc en 1934, quand Michelin rachète Citroën, quelles conséquences cela a sur les salariés, comment ils le vivent?
L'arrivée de Michelin chez Citroën se traduit à la fois par des licenciements importants, massifs, et également par l'apparition d'un nouveau visage dans l'usine, qui est l'agent de secteur, qui est là pour surveiller qui fait quoi dans l'usine. Il ne faut pas perdre de vue que le fils Michelin, qui va suivre de près Citroën, est un industriel qui finance par ailleurs une organisation d'extrême droite, la Cagoule, qui n'hésite pas à poser des bombes en plein Paris au moment du Front Populaire. Voilà comment les ouvriers de Citroën ont d'abord vécu l'arrivée de Michelin.
Dans cette voiture démocratique, voici les tractions avant.
Citroën, par celles et ceux qui l'ont vécu, c'est dans la marche du monde sur RFI, juste après les infos. C'est la suite.
National 7, Monte Carlo, pipi à la Roche-Po. Malgré les trous et les cailloux, la route est à nous. Voici les tractions avant. Et avec leur moteur flottant, après le trèfle, la Rosalie, la 11, c'est le dernier cri. Comme elle est belle, elle a des ailes, c'est l'attraction universelle.